Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et à 22h33, nous accueillons Mathieu au 39-21. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Mathieu et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 60 ans.
Oui.
Et j'appelle de la région parisienne.
D'accord.
Je suis au sud et c'est un petit coin de paradis, voilà.
D'accord, bon, super. Il y a encore des petits coins de paradis dans notre belle région parisienne.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Pierre? Mon cher Mathieu, pardon, je vous appelle Pierre, ça va beaucoup mieux.
Non, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une longue histoire, disons, d'usager de la psychiatrie.
Oui.
Mes premiers problèmes sont tombés sur le coin de la figure à Rio de Janeiro, au Brésil, quand j'avais 23 ans. Vous voyez, c'est pas tout à fait récent. Mais j'ai pu mener ma barque et arriver jusqu'à maintenant.
Oui.
Et d'avoir, disons, retrouvé un stade différent, assumé cette schizophrénie, pour la nommer, parce que j'ai été d'abord entouré et que j'ai rencontré aussi pas mal de personnes, de médecins, de soignants, une famille plutôt bienveillante. Et puis j'ai aussi rencontré des patrons qui m'ont donné ma chance. Tout ça fait que aujourd'hui je suis quelqu'un de plutôt apaisé et qui se réjouit de vivre.
D'accord. Ces bouffées délirantes, elles ont eu lieu, vous m'avez dit, au Brésil, cela a commencé.
Alors,
au Brésil ?
Alors la première, oui, j'avais 23 ans, j'étais sans doute épuisé, parce que le Brésil est un superbe pays,
oui.
Mais ce n'est pas un pays de contraste, comme disent les guides touristiques, c'est un pays d'extrêmes, et les extrêmes se touchent. Vraiment, c'est un endroit où je pouvais sortir d'une fête où je m'étais amusé, j'avais pu danser, boire et m'amuser. Et en sortant à l'aube, je voyais un mendigo qui avait la jambe enflée et pour qui personne ne viendra prendre des nouvelles ou même l'amener à l'hôpital qui lui sera refusé. Donc c'est vraiment des situations qui, à force, j'avais roulé ma bosse comme ça pendant 10 mois,
oui.
Avec un sac à dos, un peu d'argent, quelques contacts, et puis je circulais en bus, parce que le Brésil n'a pas développé de train. C'est un réseau très, très minime.
D'accord.
Donc je prenais la route et j'ai comme ça fait le tour de cet immense pays qui fait quand même 17 fois et demi la France. De retour à Rio, j'étais arrivé à Rio 10 mois avant, j'ai eu cette bouffée délirante qui m'a mené à l'hôpital Pinel de Rio, qui est l'hôpital, disons, psychiatrique du coin, mais c'était un choc quand même.
Oui, bien évidemment. Et cette bouffée délirante est arrivée par quel biais à cette époque, Mathieu ?
Je pense que d'être loin de son pays, il oui. Y avait de ça. Il y avait ce côté aussi de nervosité. Je
deviais être stressé.
Je dormais quasiment jamais au même endroit. Là.
Oui.
J'avais comme ça puisé dans mes ressources. Mais le fond du fond, c'est que je suis parti, disons, avec l'idée que j'allais laisser mes valises en Europe, en France. J'étais parti parce que je voulais, ce que j'avais trouvé comme image, rouvrir le robinet entre ma tête et mon corps. Je trouvais que j'étais j'intellectualisais trop les choses. Je voulais aller me frotter au grand livre de la vie, comme j'appelais ça.
Oui, oui.
Et cette rencontre, elle a été effective. Et puis, elle a des explosions, parce que j'avais rentré énormément de non-dits ou pour moi ça a été un aboutissement finalement parce j'étais allé chercher quelque chose et puis finalement je l'ai trouvé. Alors la maladie n'est pas une sinécure, ça m'a coûté très cher cette expérience, cette rencontre, mais au moins, ça avait un sens. Et pour moi, revenir parmi les vivants, parce que j'ai eu donc deux autres crises quand j'étais pas encore trentenaire, et une récente de 2012. Je suis quelqu'un de qui a besoin d'un tuteur, à croissance lente. Mais à force, je suis, comme je disais au départ, très heureux de ce parcours parce que j'ai pu m'en sortir, certes,
oui.
Et puis peut-être être quelqu'un qui parle pour ceux justement qui ne le peuvent pas.
Ou en tout cas qui sont peut-être encore dans cette épreuve et qui ont du mal à y croire, peut-être.
Oui, la schizophrénie est un terme qui fait peur par le nom, le mot même.
Oui.
Mais la souffrance qu'elle engendre est indicible. Elle est sourde, elle est de tous les instants. Et cette parole qui m'a été rendue et que je suis allé la rechercher, disons, j'ai lutté pour pouvoir donner un sens ou aider ou en tout cas témoigner, voilà,
oui,
tout simplement.
Oui.
Elle n'est pas venue tout de suite. Elle a dû retrouver son chemin. Je suis passé par des phases d'abattement. Je suis passé par des moments terribles de solitude. Et puis, en effet, comme vous dites, l'espoir coule entre les doigts, on ne retient rien. C'est une sensation de d'éparpillement de soi, on ne contrôle plus et on a mal sans vraiment avoir de plaies. C'est une souffrance vraiment invisible et ceux qui sont justement encore dans la tourmente forment une sorte de cohorte d'anonymes que je respecte infiniment, d'abord pour avoir compté parmi eux, mais parce que ils ont justement besoin qu'on les reconnaisse ou au moins qu'on puisse apprécier à sa juste valeur le combat qui est le leur et qui est de tous les jours et qui constitue simplement dans le fait de se lever ou porter un peu d'attention à soi, aller chercher le pain. Des tout petites choses, mais qui sont, quand on les fait quand on ne s'appartient pas soi-même, ce sont des petites réalisations qui comptent.
Alors, je pense que le message que vous livrez aussi ce soir, Mathieu, pour celles et ceux qui qui sont encore dans ce chemin-là, dans cette épreuve-là, c'est que vous dites que c'était une pathologie condamnation et qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est de pouvoir guérir grâce aux molécules.
Alors, Olivier, le terme guérison en psychiatrie est à prendre avec beaucoup de précautions.
Alors, donnez-moi votre définition.
Les molécules ont apporté une sorte de révolution. C'est-à-dire qu'elles ont permis d'apaiser certains symptômes et la schizophrénie, dans le jargon de la faculté de médecine, c'est un syndrome. C'est donc, on connaît certains symptômes, on peut en soigner certains, mais on ne connaît pas vraiment la cause du mal. Et on soupçonne d'ailleurs que le mal est nombreux. Il y a autant de schizophrénie que de schizophrène. Mm-hmm. On n'a pas encore complètement découvert toutes les causes du syndrome. Mais avec les molécules, c'est une étape et vient après le rétablissement en santé mentale. Et ça, c'est dû aussi à l'évolution de la société, dans le sens où, avant, il y avait l'hôpital, et puis la sortie de l'hôpital, comme on disait à l'armée, on était rendu à la vie civile. Maintenant, il y a tout plein de strates. D'abord, il y a la famille, bien sûr, qui après le désarroi, arrive à se renseigner. Le psychome, par exemple, qui donne des informations, qui donne des fiches sur les médicaments. Il y a les associations. Elles sont très, très importantes dans le sens où l'UNAFAM, par exemple, regroupe les familles pour des personnes et des enfants qui sont dans des situations sévères. Mm-hmm. Mais il y a des associations mixtes, ça veut dire qui regroupent dans leur sein des parents, des proches, des amis et des patients. Et ces associations permettent le relais et la diffusion et l'aide et l'accompagnement. C'est très important ce maillage, non seulement pour les souffrants, mais pour aussi pouvoir être représentatif face au gouvernement, enfin aux instances d'État et de gouvernement. C'est des associations qui, pour la plupart, sont reconnues par le ministère des Solidarités et de la Santé. C'est des associations qui agissent, qui collectent des fonds pour la recherche. Enfin, voilà, j'ai été, pendant 2 ans, président d'une association de ce genre, qui s'appelle toujours d'ailleurs SchizoWi, et qui a beaucoup compté dans ces étapes qui sont donc après la maladie, les soins, la stabilisation et ensuite le rétablissement. Mmh. Et la guérison n'est pas nécessaire dans le sens où je prends toujours un traitement et je suis suivi par le CMP de mon secteur.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai la guérison n'a pas besoin d'aide parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en vivant avec que j'ai dépassé, que j'ai surmonté cette ces crises et ces moments de grande souffrance.
Aujourd'hui, que diriez-vous de la vie que vous menez? Est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure avoir eu la chance d'avoir une personne qui vous a fait confiance et qui vous a donné un poste. D'ailleurs, que faites-vous exactement, Mathieu?
Alors, oui, ça, la relation au travail est très importante. Mais quand je parle de patrons qui m'ont donné ma chance, il y en a plusieurs. Et puis, les personnes que j'ai pu rencontrer sont nombreuses. Et certains, d'ailleurs, certaines... m'ont donné des coups de pied au cul, si je peux me permettre. Mais c'est toujours bon à prendre dans le sens où la réaction, ça provoque une réaction. J'étais dans le délire le plus grand, la deuxième crise, et... j'ai entendu quelqu'un, malgré mon état de conscience délirant, qui disait « Ah, celui-là, il est fini ». Eh bien, j'ai voulu, sans jamais l'avoir rencontré, j'ai voulu lui dire qu'il avait tort. C'est ces petites choses. On ne sait pas vraiment ce qui vous motive, mais on mobilise vraiment... tout ce dont on a à sa disposition, et c'est un combat de tous les jours qui permet d'assurer le lever jusqu'au coucher. J'ai des patrons donc qui m'ont fait confiance, mais j'ai travaillé comme coursier.
Oui.
Alors, c'était peut-être pas très glorieux, mais c'était en hiver. Et le froid, ça réveille. Et donc ça aussi, c'était important que je puisse me lever. Ensuite, j'ai été chauffeur de grande remise, location de voiture avec chauffeur. Et ça, il fallait passer un permis spécial. J'ai pu passer ce permis. Et là, nous étions à la disposition des clients. Mais l'ambiance était assez stricte parce qu'il fallait être à l'heure. Et ça, c'est le drame pour quelqu'un comme moi, parce que je prenais des médicaments qui renforçaient une sorte de somnolence du matin.
Oui.
Enfin, il fallait comme ça pouvoir tenir. C'est ça que je disais ça souvent. Mais c'est le fait de travailler qui était important. Et de pouvoir justement faire partie de la société, payer quelques impôts et surtout mes factures, mon loyer. C'est progressivement, avec quelquefois des périodes de chômage, parce que justement j'ai été... renvoyé de ce poste de chauffeur,
oui.
Parce que je m'étais endormi au volant, heureusement à l'arrêt. Mais ça n'a pas été de très bon goût pour le client qui était derrière. Mais voilà, les choses, en amenant une autre, il y a eu une progression. C'est ça que j'aimerais dire, peut-être, c'est la dynamique. Quand on entre en psychiatrie, quand on devient usager de la psychiatrie, l'important peut-être, ce que j'aime à dire, c'est de continuer d'avancer, de peut-être faire deux pas, de reculer d'un pas, mais d'avoir fait un pas quand même. Et de ne pas perdre en effet l'idée que on va aller mieux. Alors, ce qui m'a peut-être aidé aussi, c'est une famille bienveillante qui se préoccuper justement plus de mes progrès,
oui.
Même lent et long, mais qui n'était pas trop regardant sur justement mes différents boulots, parce que j'ai aussi été homme à tout faire. J'ai pu à une époque vendre des livres de médecine ou vendre des livres d'occasion. Enfin, j'ai toujours pu en effet travailler. Et aujourd'hui, vous me posiez la question de savoir ce que je faisais. Alors, avec les différentes périodes d'activité salariée, à la fin, avec ma rechute de 2012,
oui.
Il s'est avéré que je coûtais trop cher, disons, un arrêt de travail à la sécurité sociale. Donc, ils m'ont fait bénéficier, parce que je rentrais dans cette case-là, si je puis dire, bénéficier d'une pension d'invalidité. Donc, ça me permet de ne pas travailler. Mais je suis marié,
oui.
et donc ensemble, ma femme et moi, nous ne sommes pas à plaindre. Voilà, je suis très. Ma fierté, si je puis dire, c'est que j'ai obtenu cette pension à cause du fait que j'ai pu travailler. Ce qui est très difficile pour beaucoup, c'est justement l'allocation adulte handicapé, qui parfois est vraiment nécessaire pour ceux qui sont d'abord très, très, très durement atteints et qui ne peuvent pas travailler. Pour avoir l'allocation adulte handicapé, il faut être reconnu adulte handicapé. Et puisque je travaillais, j'étais orienté par, ça s'appelait la Cotorette, mais maintenant c'est la CDAPH, j'étais orienté avec le maintien dans le milieu ordinaire. La RQTH m'avait été octroyée avant la pension d'invalidité.
Oui.
C'était donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et c'était toute la nuance du français. Le mot important, c'était travailleur. Et handicapé passait après. Et c'était une qualité. Et c'était une façon aussi de me présenter aux employeurs en disant voilà, que je rentrais que j'avais, grâce à la RQTH, il avait des charges sociales moindres à payer s'il m'employait.
D'accord. Il a fallu... Tout de même, Mathieu aussi, vous n'en avez pas beaucoup parlé, sans doute par humilité, mais il a fallu sans doute beaucoup de volonté pour se sortir de tout ça. Parce que le chemin est long, hein, vous en conviendrez. C'est très éprouvant d'avoir ce type de bouffée délirante. Il y a sans doute une grande fatigue, une grande nervosité par moment, et sûrement... Une perte de confiance en soi à rattraper.
Alors, Olivier, je suis d'accord, mais je ne crois pas que la volonté s'accorde de cette manière. La montée de la crise est tout à fait jouissive, et la crise elle-même également, parce qu'on croit qu'on est super puissant et qu'on a tout compris d'où on venait et où on allait en tant que cumin et on parle aux étoiles. Mais c'est trop cher payé parce que l'état dans lequel on se retrouve à la suite est tellement, comme je le disais, tellement souffrant que je préfère me soigner. Et j'ai toujours pris mes médicaments. Bon, j'ai eu des rechutes, mais il y a quand même une continuité de soins. Mais ce que je veux dire par volonté, c'est que il faut j'avais le devoir d'aller mieux parce que justement j'avais vécu des choses belles et je voulais retrouver.
Alors justement Mathieu, on va s'arrêter sur cette notion d'avoir vécu ces choses-là et de vouloir absolument les revivre. On laisse passer l'info sur Europe 1 et on se retrouve tout de suite après, d'accord?
Oui, d'accord, volontiers.
23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez continuer à appeler Florian et Natacha au 3921 ou nous envoyer vos SMS au 739-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour commenter, par exemple, le témoignage de Mathieu. Cette épreuve par laquelle Mathieu est passé et passe encore, c'est ce que nous explique Mathieu, parce qu'il faut rester vigilant. Nous nous étions quittés, Mathieu, sur une très belle chose. Vous disiez que votre volonté, c'était celle de retrouver les belles choses que vous aviez vécues dans votre vie. Est-ce que ça, c'était ça, votre motivation première?
Oui, c'est une enfance qui était belle et joyeuse, mais marquée déjà par l'épreuve, parce que j'avais perdu mon père très jeune. Et c'est un peu lui qui m'a poussé à persévérer, parce que je le trouvais extraordinaire et que je voulais pas, disons, le décevoir en restant sur le bord de la route. Et son souvenir et sa présence, dans un sens, m'ont toujours aidé. C'est un ensemble de choses. C'est une enfance avec des frères et sœurs, avec des cousins germains, et une vie assez insouciante, comme ça l'était encore dans les années 60. J'avais vécu aussi à Paris toute une adolescence plutôt agréable et ouverte sur le monde. J'avais voyagé. Mais je parlais de d'intellectualisation. C'est à travers les sensations, en fait, qu'on arrive à se reconstruire. C'est petit à petit. Il faut laisser le mental, justement, qui gamberge, et puis retrouver pied avec des petites réalisations. Le plan d'ensemble, on le suppose, on espère un peu, mais ce qui conforte, c'est justement ces petites victoires qui peuvent paraître parfois insignifiantes, mais qui, pour moi, me comptaient beaucoup. Voyez un enfant qui tient la main de sa mère pour traverser la route sur les clous. Un couple de personnes âgées qui se tient encore la main, ou prendre mon croissant le matin dans un bol de café au lait, c'est des petits plaisirs qui permettaient de constituer une sorte de trésor qu'on pouvait dépenser pour quand les jours étaient mauvais. Et un jour, chassant l'autre, on s'aperçoit que la déprime dessert son étau et que voilà, on est plus perméable au bonheur. C'est une restauration qui n'est pas volontaire, je crois, mais qui est plutôt dans l'accueil une sorte de disposition de ne pas trop faire, de ne pas avoir d'expectatives, mais de se réjouir de l'instant. Et c'est cette notion très très subtile peut-être avec le temps, cette relation au temps qui permet de se sentir un petit peu plus vivant tous les jours et d'arriver vraiment à se stabiliser et puis à se rétablir. Mais il faut faire feu de tout bois. Il faut bien sûr continuer à se soigner, à prendre ses médicaments, mais et se forcer aussi un peu à sortir. Et là, j'ai eu beaucoup d'amis qui ne m'ont pas laissé tomber. Je pouvais aller voir ma mère, je pouvais voir mes frères et sœurs. J'étais pas mis au banc, ni de ma famille, ni de mes amis. Et puis, comme j'en parlais, j'ai pu travailler. Et ce sentiment de ne pas être assisté, bien sûr, j'étais souvent bancal et je marchais, encore une fois, très, très lentement. Mais je faisais attention aussi à la façon de me vêtir. Et toutes ces petites choses font partie de cette restauration de l'estime de soi, qui permet donc de se retrouver sur ces deux gambettes, ces deux jambes bien d'aplomb. Et la volonté, vous voyez, comme je disais, je ne sais pas si c'est un verbe qui va avec, mais ne s'accorde pas sur le même ton en disant j'ai la volonté de. C'est une autre forme d'association entre le monde qui vous entoure et vous qui essayez petit à petit de raccrocher votre wagon au train de la vie. Et je crois que j'ai été aussi beaucoup aidé parce que j'ai suivi un travail psychanalytique. Et ça, c'est un autre versant des thérapies qui existent. Dans la psychiatrie, c'était la voie, disons, royale. J'avais un psychiatre qui me prescrivait mes médicaments et j'avais un médecin psychiatre qui avait fait une spécialisation analytique qui me recevait deux fois par semaine. Et là, j'ai vraiment douillé sur le divan. Enfin, j'étais en face de lui, mais c'est une combinaison de cet ensemble. Vous voyez, il y a dans la psychiatrie, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on s'en sorte seul. Et alors que parfois on vit cette solitude très très durement. Mais c'est justement c'est peut-être cette possibilité qui m'a été donnée ou ma nature qui m'a poussé vers les autres et qui a été un des facteurs de ce rétablissement.
Merci Mathieu pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Je rappelle qu'au-delà de ce chemin exemplaire, vous êtes l'auteur du livre « Les lunatiques » chez Bayard. Ce sont des portraits de gens que vous avez croisés à l'hôpital et c'est préfacé par Philippe Pozzo di Borgo. Et vous êtes donc l'auteur du livre « Les lunatiques » chez Bayard et j'ai pu consulter ce livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu d'ailleurs, d'abord, et surtout qui m'a beaucoup enseigné sur tous ces chemins-là, qui sont des chemins assez exemplaires, parce que c'est une épreuve terrible hein, de traverser ce que vous avez traversé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller puiser loin pour pouvoir relever la tête et recommencer quelque chose. Donc pour tout ça, mille merci, mon cher Mathieu.